dans la mesure où il y a aussi plus de 2 millions ou 1 million et demi d'étudiants. Donc, si vous voulez, il y a un mismatch entre les emplois qui sont offerts, qui sont plutôt des emplois de journaliers ou de tâcherons dans le bâtiment, et d'autre part, les attentes des jeunes, de cette jeunesse très nombreuse et très forte, qui veut vivre comme on voit la vie aujourd'hui à la télévision, et Dieu sait s'ils regardent la télévision. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, on a eu une politique qui a été une politique très dynamique dans la mesure où l'Algérie a eu énormément d'argent. Elle a bénéficié du boom pétrolier des années 2000 et le régime a dépensé, on estime à peu près 800 milliards de dollars. Je sais pas, ça fait à peu près 20 fois le PIB tunisien. Donc on voit l'importance de la somme. Alors évidemment, le gaspillage, la corruption, tout ce que vous voulez a pesé sur ces sommes, mais il n'empêche, ça fait quand même des dépenses publiques, ça fait des infrastructures, ça fait des autoroutes, ça fait des routes, ça fait des ports, ça fait des aéroports, ça fait une construction qui explose absolument, et ça fait une classe moyenne qui commence à se développer. On achète à peu près le tiers de voitures en Algérie par rapport à la France, donc ça commence à devenir un énorme marché automobile. Les gens dans les grandes villes ont des climatiseurs. Donc il y a une classe moyenne qui se développe. Et cette classe moyenne, elle a des attentes. Elle veut, par exemple, être bien soignée. Donc vous avez un développement des cliniques privées qui est absolument considérable. Il y a plus de 150 cliniques qui sont actuellement en construction, alors que les hôpitaux publics sont dans un état de délabrement extraordinaire. Je cite dans mon papier une émission de télévision, un des rares plateaux ouverts sur une chaîne privée où il y avait une députée du FLN qui vantait Bouteflika et il y avait en face un docteur, une femme qui était gynécologue et qui était à la tête de ce qui va devenir le mouvement Barakat et qui expliquait que on était obligé dans les hôpitaux algériens, dans les maternités, de mettre deux femmes dans le même lit alors que Bouteflika était au Val-de-Grâce traité comme il a été traité. Donc, si vous voulez, il y a une force de revendication qui fait qu'il y a des éléments de changement très importants dans la société et qu'il y a un peu un paradoxe entre un régime politique immobile qui bouge pas, qui se maintient dans l'autoritarisme et qui cherche simplement à continuer comme avant, mais qui bute sur un problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur qui va succéder à Bouteflika. Et de l'autre côté, une société qui aspire à un changement de vie, et qui surtout, j'étais pas allé en Algérie depuis 3 ans, moi ce qui m'a frappé c'est un peu le reflux de la religion. Il y a 3-4 ans, la religion était vraiment ce qui occupait complètement la vie quotidienne des gens. On discutait sur quel était le meilleur récitant du Coran dans telle mosquée ou telle autre mosquée. Là j'ai trouvé une atmosphère très différente, les gens sont sur leurs problèmes concrets, ils veulent que ça change, ils veulent que leurs besoins soient satisfaits, et ça c'est un élément de modernisation qui à mon avis est très important pour l'avenir.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a déposé son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle.
Alors Jacques Testard, là on va parler de la PMA, la procréation médicalement assistée. Et votre papier est assez glaçant parce que j'ai appris un truc, c'est que tous autant qu'on est là, tous les six là, on relève de la procréation aléatoire.
Bien sûr.
Mais j'avais jamais pensé qu'on procédait de la procréation aléatoire.
Ben évidemment, parce que pour faire un bébé naturellement, parce que ça se fait encore quand même, il y a plein de loteries successives qui font que les spermatozoïdes sont tous différents. Un homme en produit au moins 100 millions par jour, il n'y en a pas deux pareils. Donc tout ça à partir d'une loterie où l'ADN va être distribué différemment dans chacune de ces cellules. Pour les ovules, c'est la même chose. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont imprévisibles. En plus, il y a des remaniements dans l'ADN qui font qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. C'est en plus déjà de la loterie. Ensuite, il y a une loterie de la rencontre des gamètes, quel spermatozoïde va rencontrer quel ovule. Donc tout ça, c'est quelque chose de complètement imprévisible. C'est pour ça quand on dit, par exemple, qu'on pourrait sélectionner les enfants en sélectionnant les gamètes, ce serait plus éthique que de tuer des embryons ou des fœtus.